des Sables d'Olonne et une lecture spectacle Lettre à ma mère.
Retour sur le Facebook Live pour ce débat. A-t-on besoin d'une constitution provisoire de transition ? Étienne Chouard, j'ai dû vous couper le sifflet pour une raison de timing, vous me passez mal l'expression. Je vous redonne donc la parole.
Oui, non. Régis juridique qui serait très vite rempli par
vite
des tyrans.
Politique.
Un vide politique et juridique, enfin les deux. Et en fait, il rappelle l'épisode de 1917
où les bolcheviks
ont très vite massacré tous les citoyens qui aspiraient à gérer eux-mêmes leurs affaires. Donc quand on parle de soviets et de comités d'usine, on a exactement les gilets jaunes qui voudraient enfin gérer leurs affaires et maîtriser leur destin. Et là, en fait, après une insurrection, c'est tellement violent que les plus cyniques, les plus indifférents à la souffrance d'autrui prennent le pouvoir, massacrent leurs opposants et prennent la place. Donc, mais précisément, c'est exactement cette situation qu'il s'agit d'éviter en imaginant une constitution transitoire, mais qui aurait été réfléchie et choisie. Donc il faut qu'on continue à parler de ce choix-là.
Et qui détermine un pouvoir exécutif.
Avant l'insurrection, déjà ce que le peuple veut, c'est-à-dire que le peuple, et ça ce serait historique, que font les Gilets jaunes est déjà historique.
Excusez-moi, mais ce qui s'est passé en Russie en 1917, vu le nombre de millions de morts que ça a fait pour imposer le régime, c'est quand même pas particulièrement reluisant.
Mais non, mais il s'agit justement de l'éviter. Il s'agit précisément d'éviter ça. L'idée de la préparation d'un processus constituant populaire avant l'insurrection, ça consiste précisément à éviter cette catastrophe de la guerre civile en Union soviétique.
Ouais, et pas dû uniquement à la prise du pouvoir par les bolcheviks, hein, elle avait d'autres causes. Mais...
Oui, mais... enfin, en tout cas, il me semble que ce que font nos trois invités là, et dans la droite ligne de ce que font les Gilets jaunes quand ils deviennent constituants et qui se contentent pas de demander à leurs élus d'être un peu moins cruels, et quand ils se mettent à réfléchir aux règles de la représentation, à réfléchir eux-mêmes, à instituer eux-mêmes le RIC, et à choisir, maintenant ils en sont à choisir leur RIC, donc commune par commune, ces gens-là sont en train de devenir constituants. Je trouve ça magnifique, il y a vraiment quelque chose d'historique. Jamais les luttes sociales n'ont, et c'est grâce à Internet que ça grandit aussi vite, hein, jamais les luttes sociales, mais la lutte des classes n'a suivi cette modalité constituante. Et je trouve que le projet de nos trois invités là sur une constitution transitoire permet de réfléchir de façon pratico-pratique à la façon dont les citoyens vont protéger ce processus constituant, vont mettre en place ce processus constituant pour arriver à une constitution d'origine populaire. Mais donc, c'est bien ça. Donc, et ce serait bien qu'ils en parlent, c'est-à-dire qu'ils nous disent, parce qu'ils ne sont pas tout à fait... Il y a des points communs, il y a des différences.
Yves Chouard veut réagir, ensuite Sophie Norton.
Ce serait bien qu'ils nous décrivent qu'est-ce qu'il y a dans leur constitution.
Bah déjà, moi, je voudrais dire que quand on voit que les années passent et que c'est de plus en plus le foutoir, pour rester poli, au niveau politique... Et que là ils ont en fait ils n'ont aucune limite, puisque c'est eux qui écrivent les limites de leur pouvoir. Et là on s'aperçoit que les mecs ils font n'importe quoi et ça dérive dans tous les sens. Là la constitution de la Ve République, comme elle a donné les pleins pouvoirs à l'exécutif, en fait c'est la bible de la corruption. Donc il y a un moment il va falloir arrêter aussi avec ça, parce que là vous voyez, vous faites des débats là toutes les semaines et ça ne parle pas que des conséquences, mais vous voyez, vous êtes plus sur les conséquences, mais et nous on essaye de régler la cause des causes. Et la cause des causes, c'est que nos représentants se sont autoproclamés représentants depuis 1789, et que là aujourd'hui cette façon de gouverner, ça n'est plus possible, puisqu'on voit que on voit l'état de notre civilisation, et c'est ça qui a mené à ce chaos. Donc là. Les citoyens s'organisent pour pouvoir réécrire et redéfinir l'ensemble de l'organisation des pouvoirs publics, parce que c'est ça qui est important. Maintenant, il faut que ce soit, et comme dit Étienne, et là je suis complètement d'accord avec lui là-dessus, c'est que c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation, parce que sinon, on sera toujours piégé par les représentants qui écrivent eux-mêmes les règles de la représentation.
Sophie Norton.
Oui, je voulais parler un peu de ça aussi, d'une autre façon, suite à ce qu'a dit Étienne Chouard. Il faut bien penser que les Gilets jaunes, dont je fais partie, et qui sont ceux qui finalement ont permis, par l'explosion de leur mouvement, ce travail et la visibilité de ce travail, ils veulent faire une redéfinition du pouvoir et de son expression. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir ? Et qu'est-ce qu'un mandat ? Est-ce qu'un représentant, c'est quelqu'un qui va pouvoir agir en son nom propre ou en nom d'une petite communauté ? Non ! Ils veulent justement aller vers des mandats impératifs et révocables. Alors, et ils veulent remettre en question le système pyramidal. Ce qui veut dire qu'on pourrait très très bien avoir un conseil national de transition qui travaille parallèlement à permettre l'éclosion de du vote de cette constitution transitoire, qui soit encadrée par une charte de pratiques éthiques par rapport au laps de temps où ce conseil national de transition aurait ce que l'on appelle le pouvoir, en fait serait en gestion des affaires courantes de l'État.
Mais alors, attends, le Conseil national de transition, tu dis, il va déclencher l'éclosion de la constitution transitoire.
Non, il va le permettre. Il va le permettre.
Oui, mais alors, attends, mais lui
c'est pas au Conseil national de transition de s'occuper de ça, en fait.
Et lui, il est sous quel il est contrôlé par qui? Il a peur de qui? Il n'est pas sous une constitution, lui? Alors, tu vois, quand je vois Conseil national, je vois un organe de pouvoir, donc on aura probablement besoin de ça, mais il faut que cet organe ait peur de quelque chose. Il faudrait qu'il ait. Oui. Déjà, pour moi, la constitution transitoire, il faudrait qu'elle soit préparée à l'avance pour que. Quand ça pète, on l'a déjà.
Et
on
alors
l'a déjà
choisi, parce que comme
de ça... De toute façon, voilà, si on a choisi l'adoption d'une constitution de transition, si on a un conseil de transition, et toutes les organes qu'on va établir pour gérer la transition, tous les organes seront soumis à la constitution de transition.
Alors que dans la solution de Sophie, j'ai l'impression que il y a le changement de régime... Et le CNT sans constitution transitoire, et c'est le CNT qui permet l'éclosion de la constitution transitoire.
Bah, c'est-à-dire que...
Il y a combien de temps entre les deux ?
Alors, il y a deux... Ah bah, c'est très bref.
Mais combien ? C'est une semaine ? Deux jours ?
Peut-être trois semaines.
N'importe quel organe de pouvoir qu'on nomme...
Alors, constitution, non, mais ce que tu proposes, Étienne, tu dis on pourrait voter avant.
Oui, au
mais alors, ce que dit Régis, c'est que quelle légitimité aura ce vote ?
Parce
que s'il n'a pas été organisé au niveau national de façon régulière...
Mais on peut le faire, ça. On peut le faire entre nous, on n'a pas besoin des élus pour organiser ça.
Emmanuel Vallet, veut région, on l'a porté depuis longtemps. Il y a deux types de légitimité.
Il y a des gens qui n'ont pas Internet.
Oui,
comment tu vas faire ?
Ça devient marginal, ça. Oui, oui.
Il y a deux types de légitimité. Il y a la légitimité démocratique, qui est celle qui est donnée par la représentativité sociologique, et il peut y avoir une légitimité d'initiative. Si nous prenons ensemble, en nous concertant tous ensemble une décision, elle va avoir la légitimité de notre groupe. Mais il va y avoir celui qui va avoir donné l'idée au départ. Avant de faire le consensus pour qu'on prenne la décision ensemble, il y en a un qui, à un moment donné, va donner une idée qu'il va défendre et les autres vont la trouver bonne. Bah, dans cette phase-là, il a une légitimité d'initiative à faire sa proposition. Nous, dans le mouvement actuel... pré-révolutionnaire, on va dire, ou pré-révolutionnaire, je préfère ce terme-là.
Pré-transitoire.
Pré-transitoire. Nous avons une légitimité d'initiative, parce que nous offrons nos débats ouverts à tout le monde, nous en débattons, etc. Et ce que nous écrivons là peut être remis en cause, débattu, et devenir une revendication du mouvement populaire.
Mais si tu veux,
c'est ça qui lui donne une légitimité.
Si tu veux que la
légitimité du lendemain,
elle
est donnée par ça.
Si tu veux que la constitution, elle soit complètement adoptée par la population, il faut quand même à un moment donné que l'ensemble des citoyens aient pu se prononcer.
Mais ça, c'est. Quand le jour d'après, quand le gouvernement s'écroule, la population ne s'est pas prononcée pour qu'il s'écroule. Mais il s'est écroulé. Et c'est ce vide-là que. La Constitution,
il y a un point qui est important, il y a quand même, je ne suis pas juriste, beaucoup de textes de loi qui existent, la Constitution, etc. On fait table rase de tout du jour au lendemain.
Non, pas de tout, mais de la Constitution.
Bah, le 26 août 1944, 90% de la législation produite par Vichy a été déclarée nulle et non avenue. Hein. Alors après, il y a certaines choses qu'on a conservées.
Civil, on a regardé le Code civil.
Ah ben le Code civil, non, il existait toujours. Napoléon.
Ben exactement, on l'a regardé, on n'a pas fait table rase.
Mais je veux dire, non, là c'est la Constitution. Moi ce qui continue à me préoccuper, c'est toujours la question du pouvoir, je vais continuer à radoter. Si on en est là aujourd'hui, si ça part dans tous les sens, c'est pas parce que certains veulent confisquer le pouvoir. Non, c'est parce que le système néolibéral ne veut plus d'une démocratie. C'est la démocratie sans le démos, on ne veut plus du peuple. Donc, on vide toutes les valeurs démocratiques.
Régis, le peuple n'a jamais eu voix au chapitre.
Mais non.
Depuis le début.
Si.
Non, tu ne peux pas dire ça.
Il a eu voix au chapitre dans des contextes, dans des pratiques. Il a voté massivement pour De Gaulle. Mais attends, des tromperies, oui, mais ça c'est trop facile.
La démocratie,
c'est trop facile. Des aveugles et des sourds et qui
chacun son tour.
Non, moi j'ai voté à certaines élections, toujours perdu d'ailleurs, sauf en 2005. Après, on m'a volé mon truc. Mais non, ce que je veux dire, c'est que on a en face de nous des gens. Je parle pas de leur légitimité. Je considère que celle de Macron est voisine de zéro. Mais je sais qu'il y a un processus qu'on voit à l'échelle de l'Europe. On a ossifié dans les traités tout ce qui relevait auparavant de la délibération démocratique,
oui,
la délibération populaire.
On va sortir de ce carcan politique.
Alors,
on va sortir de façon démocratique.
Donc, nous avons des adversaires qui sont aussi des ennemis parce qu'ils ont un projet pour ce pays, ils ont un projet pour cette planète, pour le monde. Ils ont un projet. Et donc, en aucun cas, ils ne vont se laisser faire. Donc,
mais nous aussi, on a un projet et en aucun cas, on va se laisser faire.
Oui, non, mais d'accord. Sauf que la violence légitime, c'est l'État qui l'a.
Oui, mais attends, tant qu'ils ont l'armée et la police. Mais quand on est des millions, la police et l'armée, dans tous les pays du monde, la police et l'armée passent du côté du peuple et c'est ça, l'insurrection. C'est quand l'armée et la police arrêtent de soutenir Macron. Alors à ce moment-là, Macron, il est bâti, regarde comme il est bâti, c'est pas lui qui va nous résister, enfin, tu comprends. Il n'est fort que parce que, pour l'instant, la police, tu obéis, parce que c'est la légitimité républicaine ordinaire. Mais si la population aspire à changer de régime...
Oui, mais quand tu dis la population, c'est un concept, c'est un concept juridique.
Non, mais c'est Paris, t'as toutes les rues noires de monde.
Mais
t'as l'armée qui change de camp.
Non, mais d'accord, oui, mais ça c'est très romantique, j'adore.
Mais c'est trop romantique, ça se passe comme ça partout dans le monde.
En Égypte, en Tunisie.
Sissi qui est là.
Parce qu'ils n'avaient pas été constitués avant.
Parce que c'est aussi complètement.
Ça s'est passé aussi au Chili en 1973.
Oui.
Si on parle de Sissi, ça s'est aussi passé avec Pinochet.
Et puis en plus, c'est complètement instrumentalisé par d'autres puissances étrangères.
C'est
très bien aussi.
On est dans ce contexte-là. Moi, attendez, les processus, la constitution transitoire, le mode d'élaboration. Citoyen, je trouve ça, franchement, ça me va très bien, surtout que je suis juriste et que j'ai fait beaucoup de droits constitutionnels.
Venez avec nous,
chacun son tour.
Je suis gilet jaune depuis le premier jour. Les gens le savent bien, mais le problème que j'ai, c'est que, je veux dire, c'est la prise du pouvoir, c'est la violence à laquelle on va être confronté, et
pas forcément.
Je vois mal dans le cadre de la mise en place de ces rapports de force. Alors, c'est plusieurs fois que Étienne, je l'entends dire, mais quand les rues seront noires de monde, etc. En général, non, ça se passe pas comme ça. Il y a des insurrections et ensuite, comme par hasard, elles sont très souvent confisquées, etc. Donc, je pense que la question du pouvoir face à des gens qui nous veulent du mal, elle est fondamentale.
Quelque chose de nouveau, c'est l'Internet qui nous permet d'être très nombreux à une vitesse qu'on n'a jamais vue.
Voilà,
tu peux pas dire ça n'arrivera jamais sous prétexte que ça n'est jamais arrivé. Il se passe un truc là. Il y a un cerveau collectif qui grandit grâce à l'interconnexion qui est historique. On peut pas dire
ça s'est jamais passé
Nous comptons là-dessus. Nous comptons sur une mobilisation qui va plus vite que ça n'a jamais été. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais l'idée c'est d'y travailler. Et comme nous sommes très connectés, que nous pouvons travailler ensemble avant que ça pète, et ça va bientôt péter, il y a un truc quand même, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui il y a une marmite qui est en train de chauffer.
Moi,
comme
je
jamais.
Sais que
il est temps de se préparer à ce qu'il n'y ait pas de vide.
Ça a commencé le 17 novembre. Ça a pris une forme insurrectionnelle assez extraordinaire le 8 décembre, etc. J'ai bien vu ça. Il y avait 80% de la population qui soutenait les Gilets jaunes en face.
Oui.
Moi, ça a été une surprise. Ça a été une surprise pour moi. Ça fait 46 ans que je suis avocat.
Oui.
J'ai vu une police dont je pensais qu'elle était républicaine se comporter comme des nervis.
Oui.
Je dis pas que ce sont des SA, mais ils se comportent comme des SA dans les rues. Oui. Je suis désolé, c'est monstrueux ce qui s'est passé. Et j'ai vu une magistrature dont j'espérais qu'elle avait évolué et qu'elle était moins servile qu'auparavant, qui s'est révélée totalement au service du pouvoir,
et
en connivence idéologique,
et
sociologique
injuste.
Avec lui. Donc, moi, je pense que l'affrontement va pas être gay.
Donc on a.
Oui, mais la police et l'armée a toujours été du côté du pouvoir. Elle a jamais été du côté du peuple.
Ça dépend. Quand elle passe,
quand il y a le nombre. Mais tant qu'il y a pas le nombre, elle est toujours.
Ben voilà.
Moi, je regarde pas très loin. Je regarde juste la Seconde Guerre mondiale. La police était de quel côté?
Elle a été exécutante en grande partie.
Et ben voilà, oui, ben voilà. Et ben voilà, elle était à la solde. Et qu'est-ce que je vois quand je vois dans les rues
et la libération comme par hasard.
Moi, je suis devenu résistant.
Oui, mais il faut pas l'enfermer dans ce rôle-là parce qu'on va, en avoir besoin. Je veux dire, il y aura pas de révolution sans les forces armées. Il y en aura pas. Voilà, c'est pas la peine. Il y en aura pas.
D'accord.
Je ferai écraser. Donc il faut pas les, faut pas enfermer la police dans ce rôle-là. Elle n'est pas. Il y a plus de la moitié. À chaque fois qu'on en parle avec les policiers, il y en a plus de la moitié. On avait Alexandre Langlois il y a quelques semaines. Il y en a plus de la moitié qui sont gilets jaunes. Donc en fait, ces gens-là sont maltraités comme nous. Ils sont aux ordres parce que c'est leur métier, parce que c'est leur mission. Mais c'est leur mission, c'est le service public. Alors là-dedans, il y a des
avant de voir cross en l'air, moi, les bras pioupiou du 17e, je suis assez pessimiste.
Non, mais ils ne font pas de même. Ils le font sous la pression.
Régis, on ne peut pas faire autrement que compter là-dessus. Il n'y a pas d'issue sans ça. Il n'y a pas d'issue sans ça. Sans ça, c'est
ce que je dis. Hein.
Mais ils vont peut-être enfin comprendre qu'ils sont bernés par la situation.
Mais bien sûr, mais ils le savent déjà.
Moi, ce que je veux dire, c'est que la situation change, eux-mêmes vivront mieux leur métier.
Oui, choix.
Ouais, moi, ce que je voudrais dire, c'est que même au-delà des gilets jaunes, en fait, là, c'est tout le peuple français qui est concerné. Et au-delà du peuple français, la situation, elle est mondiale. Oui. La crise, elle est mondiale. Parce que là, en fait, on vit une crise politique profonde, mais au-delà d'une crise politique profonde, on vit une crise de civilisation. Donc, si on se préoccupe pas de ce qui va nous arriver, on va dans le mur. Là, c'est vrai que ce qui est inédit là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a alors en France, dans d'autres pays, là, il y a d'autres pays en plus qui commencent à s'intéresser au projet de constitution. Bah, là, en l'occurrence du Phénix français, mais peu importe. Toujours est-il qu'il y a des citoyens qui prennent les choses en main et qui ne veulent plus de la représentation telle qu'elle est définie depuis des siècles, parce que cette représentation, enfin cette façon d'organiser les pouvoirs publics, elle est obsolète. Et c'est pour ça que, de toute façon, ça craque de partout. Donc là, justement, là, le fait que Internet nous permette d'organiser des cerveaux collectifs, eh ben, ça va nous permettre de produire et d'organiser une transition politique vers un autre modèle carrément sociétal, parce que, encore une fois, c'est l'ensemble du monde qui est concerné.
Emmanuel Valette.
J'aurais envie de définir les tâches du gouvernement provisoire, parce que c'est aussi ça qui... De quoi sera chargé de faire le gouvernement provisoire? Il faut que son rôle soit cadré par la Constitution, donc il n'aura que la possibilité d'expédier les affaires courantes. Il aura comme tâche d'organiser le processus constituant défini en annexe du projet. C'est-à-dire que c'est même pas au gouvernement provisoire de définir comment est-ce qu'il nommera l'Assemblée constituante. Ça, on l'écrit dans la Constitution.
Et pour le coup, donc, il aura réellement un pouvoir exécutif.
Oui, c'est vrai.
Et uniquement exécutif.
Mais si je relis l'article que je vous conseille de lire, là, Étienne l'a publié, là, sur la Constitution provisoire de transition, c'est l'intention de l'article 4, qui traite du pouvoir exécutif, c'est définir un pouvoir exécutif de transition comme un pouvoir exécutant qui doit être neutre politiquement et laisser au Parlement l'initiative des lois et des orientations politiques, de politique économique, sociale et internationale. Et puis après l'article, en vertu du principe de précaution, ce gouvernement s'abstient de prendre toute décision faisant polémique au sujet de possibles dangers irréversibles, entre parenthèses, mise en service d'une centrale nucléaire, grand projet industriel impactant les milieux naturels, ou des autorisations d'OGM, etc., tant que les procédures de mise sur le marché n'ont pas été revues et validées. Et ça, c'est le Parlement qui doit le faire. Le pouvoir exécutif est dépersonnalisé et constitué d'un conseil exécutif, composé dans un premier temps de 30 membres tirés au sort dans un panel de 120 cadres recrutés pour leur expérience de gestion de projet et de compétences opérationnelles. Autrement dit, ces gens-là ne sont pas les révolutionnaires qui ont attaqué l'Élysée, non, c'est des gens que l'on recrute pour des compétences exécutives. Et ils ne prennent pas de décision, ils exécutent ce que le Parlement va faire.
Donc après, on garde le Parlement alors ?
On garde le Parlement.
Parce que le Parlement, ou même le Conseil national de transition, décide. Pardon. Ou même ce que décide le Conseil national de transition.
En vertu de quel pouvoir ce qui décide, si c'est juste deux ou trois... mesures d'urgence, ça, on les écrit dans la Constitution. Il y a des mesures d'urgence.
Il y a des mesures conservatoires suspensives.
Je termine juste. Les mesures d'urgence de première nécessité, c'est rétablissement de l'ISF, parce que ça fait consensus dans le mouvement populaire, TVA à 0% sur les produits de première nécessité, et amnistie des prisonniers politiques, autrement dit les gilets jaunes, les détingés, tout ça, amnistie, et puis indexation de toutes les retraites sur l'inflation. En dehors de ça, en dehors de ça, c'est le Parlement qui en décidera. Là, ça, c'est les mesures d'urgence. Mais le pouvoir exécutif n'aura pas de pouvoir de prendre d'autres mesures que ça. Il faut que cette constitution soit très consensuelle, autrement dit, ne chamboule pas tout. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question de quitter l'Union européenne. Ça, je pense qu'il faudra le faire. Mais si on dit on va quitter l'Union européenne à ce niveau-là, on va cliver les gens.
Mais c'est vrai.
Il faut que les gens en arrivent à cette conclusion.
Ça serait pas légitime de toute façon de dire on va quitter l'Union européenne comme ça de but en blanc.
Que la population
Il faut que ça soit la population qui le veuille.
Il y a quand même eu un référendum de 2005.
Absolument.
Oui, mais pas pour quitter.
Je veux dire que...
Pas pour quitter, enfin...
Non, mais le peuple s'est exprimé en 2005.
Absolument.
Mais pas pour dire il faut quitter l'Union européenne.
Non, mais pour dire on veut pas être dedans.
On pourrait dénoncer...
On veut pas du projet.
Au nom de 2005, on pourrait dénoncer le traité Fillon.
Oui, tu parlais tout à l'heure de ton Parlement de... du Parlement qui aurait des décisions. Le Parlement, lui, il est aussi aux ordres, si je peux dire, du peuple et des comités citoyens.
Oui.
Si tu imagines un Parlement...
Le Parlement qui est défini dans la Constitution
provisoire. Oui, si tu imagines
un
Parlement comme celui qu'on a aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge.
On parle de celui qui est défini dans la Constitution, de transition. Voilà. Et, on ne fait plus référence à l'ancienne. La seule référence à l'ancienne Constitution, c'est quand on a oublié de définir quelque chose dans ce texte provisoire. À ce moment-là, c'est l'ancienne règle qui s'applique.
Comme ça, il n'y a pas de vide.
Voilà.
Dominique Gagne.
Oui, mais Emmanuel, là, ce qui est important, c'est ton Parlement, le Parlement, là, d'où il vient, comment il est...
Je t'invite à lire l'article Pouvoir parlementaire et législatif, l'article 5, intention, définir un pouvoir parlementaire alliant légitimité démocratique et expérience dans la conduite des affaires publiques. Il est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Chacune d'entre elles est composée de 400 membres selon des modalités alliant représentativité sociologique et de l'intelligence collective issue des assemblées. Alors, donc il y a une Assemblée nationale composée de 400 parlementaires avec un collège de 210 citoyens, je ne lis pas tout pour aller plus vite, 210 citoyens tirés au sort, un collège de 100 anciens maires de villes tirés au sort, parce qu'il faut de la compétence. Hein. Donc, pour ces...
Un collège de... Visiblement, Sophie n'est pas d'accord avec toi, non, et j'ai l'impression que...
C'est le débat, mais c'est le débat, mais il faut trouver un moyen d'allier de la représentativité sociologique et de la compétence, au moins dans la partie transitoire. Mais c'est tout le débat.
Mais qu'est-ce que tu appelles compétence ?
Oui, parce que apparemment,
dans la gestion des affaires publiques.
Ah, mais en fait, dans le cas d'une constitution de transition, on n'a pas besoin d'écrire des lois. Des lois, déjà, il y en a des floppés. Il y a un code comme ça. On n'a pas besoin d'écrire des lois dans le cadre d'une constitution de transition.
Pour Yves, même, il a prévu dans sa constitution qu'ils ont prévu qu'il y aurait, pendant la période transitoire, aucune loi.
Non, aucune loi. Il y a déjà ce qu'il faut. Pour gérer
les
affaires courantes, on n'a pas besoin de lois supplémentaires dans le cadre de la constitution de transition.
La réindexation des retraites, par exemple, c'est pas une loi ?
Oui, mais c'est pas à faire pendant la période de transition, dit. Ça se discute.
Ça se discute parce que le mouvement populaire, les gens, ils vont pas attendre un an pour.
Non, mais ça, à la limite, t'as même pas besoin d'une loi pour réindexer les. Voilà, ça peut être un décret.
C'est une rupture de la séparation des pouvoirs.
Un décret, c'est un. C'est
aussi. Non, mais ça, c'est en fait, non, ça, c'est des mesures qu'il va falloir prendre. C'est des mesures.
Oui, mais
pas forcément des lois.
C'est quoi la différence ? Les mesures, ça va être des lois.
C'est des mesures. Provisoire.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu interdis les lois mais tu permets les mesures ? C'est quoi la différence entre les lois et les mesures là ? Parce que...
C'est que les lois, elles ont quand même tendance à être figées alors que les mesures, elles peuvent être que provisoires.
Il n'y a pas de loi figée pour moi, il n'y a pas de loi figée.
Si on estime...
C'est le principe de la loi quand même.
Il y a une discussion à faire là, pour
si on estime que ce gouvernement transitoire est lié à la constitution transitoire qui aura été désignée auparavant, eh bien. Il suffit de lire, par exemple, un article d'une constitution transitoire qui dit que, par exemple, la nation s'engage à ce que tous les citoyens aient un niveau de vie convenable.
Oui, mais
donc, à ce moment-là, forcément, ton gouvernement transitoire, il va être obligé de prendre des mesures pour qu'on ait une éradication de la pauvreté.
Oui, mais
c'est tout. Et il ne sera pas...
Mais il aura les mains liées parce qu'il ne pourra pas remettre en cause le système économique, par exemple.
C'est pas gênant, puisque la Constitution l'obligera. Il sera obligé par ce texte supérieur qu'est la Constitution.
Quel moyen aura-t-il aussi? C'est bien beau d'assigner un objectif. Si on assigne un objectif sans donner de moyens...
Des moyens, c'est peut-être justement ça. N'oublions pas qu'un exécutif, il travaille également avec des fonctionnaires. Et que ces fonctionnaires, ils connaissent aussi les moyens, ils connaissent les procédures.
Ils connaissent très bien.
Hein. Ils connaissent les moyens,
on leur donne les moyens qu'on veut, en fait, puisque c'est...
Voilà, et ils les connaissent.
C'est pour ça que je mets des fonctionnaires,
toutes les latitudes de pouvoir organiser.
Je mets des fonctionnaires dans le pouvoir exécutif.
De toute façon...
Régis de Castelnau, on ne l'a pas entendu depuis longtemps.
C'est parce qu'il n'a rien à dire.
Subjugué. Effectivement, on est sur des problèmes qui sont des problèmes de technique juridique qui sont assez particuliers, assez difficiles. Moi, une chose qui m'a frappé quand j'ai lu les textes que Étienne Chouard m'a transmis ce matin, je trouve qu'il y a énormément de choses. Alors, il y a plein de choses où on a envie de discuter, des choses avec lesquelles on est d'accord. Mais je me pose la question. Sur justement cet aspect transitoire, la question de la simplicité.
Oui, il faut simplifier ça. Voilà, je suis d'accord avec ça.
C'est-à-dire que le problème, il y a un côté proclamatoire, mais comme tous les textes juridiques aujourd'hui, vous savez, les lois sont figées, mais je veux dire, on les change tout le temps. La production normative est monstrueuse en France.
L'inflation législative.
En 20 ans, le journal officiel est passé de 10 000 à 30 000 pages. C'est souvent le masque de l'impuissance administrative, d'ailleurs. Hein, chacun veut avoir une loi qui porte son nom. Donc, je pense que...
Il faudrait simplifier les
simplifier, parce que quand on parle d'exécutif et des mesures à prendre, c'est-à-dire gestion des affaires courantes, alors... J'aime bien ces premières mesures, ce sont tout à fait celles d'un gouvernement révolutionnaire, on amnistie, etc. Ça me fait très bien qu'on le fasse, et j'espère qu'on va le faire, qu'on va y arriver, parce que cette répression judiciaire me dégoûte. Mais le problème, c'est qu'il va quand même falloir faire tourner la boutique.
Moi, sur la complexité, je voudrais juste répondre. Une constitution très simple, c'est article 1, le chef a toujours raison. Autrement dit, ça c'est pour dire qu'une dictature. Ça c'est pour dire qu'une dictature, c'est toujours plus simple qu'une démocratie. On ne peut pas s'affranchir dans un système démocratique.
On parle de la transition, on parle du gouvernement provisoire.
Oui, mais même dans une constitution, on ne peut pas s'affranchir d'une certaine complexité, de la séparation des pouvoirs. Voilà. Il n'y en a plus que trois, il y en a six, parce qu'il faut le pouvoir monétaire, il faut le pouvoir contrôler les pouvoirs médiatiques pour qu'ils ne soient pas sous l'influence du pouvoir financier. Enfin, il y a des choses à prévoir. Maintenant, pour vendre ça aux citoyens, pour que ça pour que ça devienne une revendication. Bien sûr qu'il faut simplifier, mais il faut d'abord avoir le texte peaufiné pour pouvoir en faire des résumés. D'abord un résumé en 4 pages, et puis après un résumé en 1 page, qui deviendra le truc avec les liens. Les gens qui voudront creuser auront accès au texte définitif. Mais il faut effectivement arriver à un texte très simple, mais il faut que derrière ce texte très simple, il y ait de l'intelligence collective qui produise justement cette... Ce contrôle des pouvoirs et cette...
Cette question de la simplicité, vous avez raison, il ne faut pas avoir peur de la complexité. Une démocratie, c'est plus complexe qu'une dictature. Ça, je suis entièrement d'accord.
Non, puis une constitution, il faut quand même écrire un certain nombre
de tout à fait. Parce que si vous prenez
l'exemple
de la constitution américaine, c'est 27 articles.
Ils sont beaucoup plus longs que les nôtres.
Il n'empêche que cette constitution fonctionne toujours, machin, moyennant quoi, en dehors de ça, ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qui est extraordinaire. Il y a un état profond, il y a... Enfin, je veux dire, c'est...
Bon, il existe parce qu'il n'y a plus de constitution.
Ils s'affranchissent de la régularité et de la loi, comme ils veulent.
C'est officiel,
le cinéma américain en est plein. Non. Sur cette question de la complexité, moi, je reviens sur une... Non pas une critique, mais un constat que je fais de ces différents textes, c'est que la dynamique veut qu'on y mette énormément de choses. Alors, faut-il un préambule, en faut-il pas, les valeurs qu'on porte, etc. Je suis partisan, et surtout qu'est-ce que j'ai vu se produire dans la Ve République, hein, une de ces dérives importantes, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, qui, d'abord, Giscard en a élargi la saisine, tout le monde était d'accord, 75 parlementaires, etc. Alors qu'avant, c'était président de la République et le président des deux chambres.
Sauf qu'on ne vous a jamais demandé notre avis.
Non, mais ça c'est autre chose. Donc il y a eu une loi organique qui a été passée sur la saisine.
C'est le principe républicain, ça.
Donc une décision n'est pas mauvaise parce qu'elle a été prise en dehors des règles que vous aimeriez. Donc moi j'étais pour et je m'aperçois des effets pervers que ça a produit. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel? C'est qu'on a eu d'abord des politiques qui étaient nommées comme ça. C'était une espèce de gâche où on mettait des gens qu'on savait pas, hein, qu'on recasait, comme on vient de mettre. Juppé, c'est pour des raisons politiques qu'on l'a mis là.
Du népotisme politique.
Oui, mais aussi avec des arrière-pensées. Et ce Conseil constitutionnel qui a été dirigé techniquement par M. Schrammeck à un moment, par les énarques, par des conseillers d'État, hein, a étendu complètement ses compétences et ses pouvoirs. Et maintenant, il pioche dans le préambule, il pioche ici, il pioche là, hein, des éléments pour dire, ah ben, écoutez, la fraternité, ça a une valeur constitutionnelle, donc j'annule une loi, etc. Donc,
c'est le gouvernement des juges.
Oui, le gouvernement des juges, je pense que les décisions du Conseil constitutionnel reflètent la connivence de ce Conseil avec le pouvoir en place aujourd'hui.
Oui, c'est des juges, hein, de l'oligarchie.
Moi, quand je vois ce qui s'est passé, sauf aujourd'hui avec la prévalidation du référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris, tombé il y a 2 heures.
Ah tiens, moi je suis prêt à avoir les bonnes surprises, hein, c'est ce que...
La procédure de RIP a été validée par le Conseil constitutionnel à un peu plus de 18
ans. Ouais, mais enfin, ça n'a aucune force contraignante.
Ce que je voudrais dire, il y a deux décisions du Conseil constitutionnel, ils ont validé la loi fake news, bravo. Hein, c'est l'État qui produit le plus de fake news, hein, et il va empêcher les gens de s'exprimer. Et deuxièmement, il y a eu la liberté de manifester, hein, où on a dit, ah, c'est magnifique, le Conseil constitutionnel a annulé l'interdiction de manifester par le préfet. Non, il a dit, il a trop de pouvoir. S'il en avait eu moins, on aurait été content. Hein, mais personne n'a lu la décision, hein, et donc le Conseil constitutionnel est un outil. Mais, mon cher Étienne. Hein, moi je demande à la regarder, je demande à voir, hein, ça aussi c'est le rapport de force. Ils considèrent peut-être qu'ils ont chaud aux fesses, hein, ce sera le rapport de force.
Régis, je voudrais vous poser une question. Pour vous, que représente la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au niveau normatif?
Ah bah, il a une valeur constitutionnelle.
L'article 16 aussi.
Il a une valeur suprême constitutionnelle, non?
Ah ben, il a une valeur comme le reste de la Constitution.
Donc l'article 16 qui dit « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée », quand l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit ça, qu'est-ce qu'on fait? À partir de ça, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que c'est logique d'en déduire qu'on n'a pas de vraie Constitution, qu'il nous en faut une et qu'il faut qu'on l'écrive?
Ben oui, mais ça, c'est...
Non, et puis surtout,
c'est
que,
non, mais attendez, c'est
surtout que l'article 16
c'est
dit
votre liberté que... de citoyen. Mais il y a des gens qui vont vous dire, si je suis désolé...
L'article 16 dit, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution.
Oui, mais ça, c'est le constat que vous faites.
C'est écrit dans la déclaration des droits de l'homme.
Oui, mais s'il n'y a pas, c'est ce que vous considérez. Quand vous venez devant Yves Calvi lui dire, écoutez, la France est en train de basculer dans une dictature, ce qui est mon opinion... c'est mon opinion... Hein, eh bien, il vous dit, mais pas du tout, vous dites qu'on est Pinochet, etc. Il y a des opinions diverses là-dessus. Hein,
mais on peut pas interpréter la Déclaration des droits de l'homme comme on veut, quand même.
On peut considérer que les conditions qui sont décrites dans l'article 16 ne sont pas réunies, qu'en France, il y a séparation des pouvoirs, etc. On nous a cassé les pieds pendant 25 ou 30 ans. D'accord. En nous disant, quelle merveille, il y a un syndicat de la magistrature, ils sont tellement indépendants, ils sont tellement ceci, ça y est, enfin, séparation
des pouvoirs. Oui, mais ça, on sait très bien que c'était de la mascarade.
C'est une exception française.
Donc là, on
connaît la séparation des pouvoirs. Non, c'est pas vrai, c'était pas la mascarade. Tout le monde était content quand les magistrats, qui étaient totalement instrumentalisés, obéissait aux ordres de Hollande en tapant sur Sarkozy. Mais comme c'était Sarkozy, tout le monde applaudissait. Exactement, comme idiot, j'ai vu le candidat communiste aujourd'hui applaudir la mise en cause de Bardella. Ce sera ton tour le prochain.
Hein.
Et l'année dernière, hein, Monsieur Mélenchon était venu dire, et j'avais fait passer le message, ce sera vous les prochains. Hein, il était venu dire à Fillon, vous allez voir, vous êtes un pourri, etc. Moyennant quoi, c'est lui qui a eu droit. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut être...
Donc toujours est-il que dans l'état actuel de la situation, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on fait rien, ça va nous péter à la figure.
Non mais
c'est vrai. Donc là, on est en train de nous, on propose là à l'ensemble du peuple français des projets de constitution de transition. Parce que de toute façon, c'est inéluctable. On n'a plus d'échappatoire parce que encore une fois, ça va nous péter à la figure. Donc là, qu'est-ce qu'on fait?
Étienne Chouard veut réagir. On l'a pas entendu depuis longtemps.
Il me semble que pour aider les gens qui nous écoutent à réfléchir à leur tour à ce sujet d'une constitution provisoire, il faudrait qu'on arrive ensemble à décrire simplement ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans une constitution provisoire qui fait que c'est important et que ça vaut le coup de se battre pour. Moi, quand j'ai pris des notes là-dessus, avant même de lire vos textes, et j'y ai retrouvé en partie ce que je cherchais, mais il me semble que dans une constitution provisoire, il faudrait retirer aux acteurs politiques leur toute-puissance actuelle, la toute-puissance que leur donne la constitution de la 5e qui est scandaleuse, et, contre laquelle, vous voyez, et puis leur impunité. Le fait qu'on ne puisse rien faire contre les acteurs politiques leur permet de se mettre en travers et va leur permettre de se mettre en travers de notre processus constituant populaire si nous ne l'empêchons pas avec une constitution transitoire. Donc je sais, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais à mon avis, les gens qui vont y réfléchir, il va falloir qu'ils retirent aux acteurs politiques leur toute-puissance.
Leurs avantages délirants.
Voilà. Ah oui, alors j'ai pas parlé de leurs avantages.
Et puis
leur impunité. Oui. Leur impunité, c'est-à-dire que probablement, et je l'ai retrouvé notamment dans la constitution d'Yves, là, mais je sais pas si j'ai rien là chez toi, mais des tribunaux populaires, comme les assises, hein, les assises, c'est les tribunaux populaires, et qui doivent pouvoir évoquer et punir les traîtres, hein, parce que vraiment, là, nous sommes trahis, et il va falloir que la constitution permette, grave, dans un état de droit, hein, il faut qu'il y ait plusieurs degrés de juridiction, les droits de la défense, mais il faudrait qu'on arrive à incriminer, à mon avis, les responsables.
La haute cour de justice a été supprimée.
Oui, mais là, il faut la rétablir.
Il faut la rétablir.
Mais à mon avis, il n'y a pas besoin d'une juridiction d'exception. Hein. Les tribunaux ordinaires devraient pouvoir s'occuper.
Non,
tu ne penses pas? Pourquoi est-ce que les acteurs politiques ne devraient pas être soumis au droit commun?
Parce que c'est séparation des pouvoirs. Et on va avoir... C'est exactement
ce qui se passe. Mais si ce sont des jurys populaires...
Eh bien, excusez-moi, pour l'instant, c'est Serge Tournaire qui choisit le président de la République.
Oui, d'accord, mais...
Ça ne va pas.
Oui, non, mais j'entends ça.
Ça ne va pas.
Mais j'entends Régis, mais si c'est des citoyens comme aux assises, qui sont les tribunaux populaires...
Tirez au sort.
Non, c'est pas la séparation des pouvoirs. T'as les citoyens eux-mêmes...
Alors, on met en place ce que tout le monde dit qu'il faut supprimer. Moi, je suis pour la Cour de justice de la République, hein, parce que je ne veux pas que ce soit les magistrats ordinaires,
la
justice ordinaire qui s'occupe de...
Non,
pas des assises. Qu'on mette en place des juridictions spéciales pour...
Populaires
et des procédures pour que... Parce que le problème...
Il faut qu'il y ait des procédures, absolument, bien sûr.
Le problème, c'est que l'élu, il y a une responsabilité politique. Hein, il a une responsabilité politique, qu'il soit parlementaire...
Pas que politique.
Y a ensuite une responsabilité personnelle pour les infractions qu'il commet.
Oui.
Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a tout ce qu'il faut pour les sanctionner. Il y a tout ce qu'il faut, les textes, etc. J'ai écrit un livre qui s'appelait Le fonctionnaire et le juge pénal.
Le fait qu'ils ne le sont pas,
le fait qu'ils ne le sont pas. Non, ce que je veux dire, quand M. Cahuzac fait une campagne de presse en disant qu'il ne faut pas qu'il aille en prison, etc., hein, et finalement il y a un accord qui est passé, on se demande comment, etc., et que ce n'est pas le cas, le problème c'est que les procédures, la façon dont ça se passe, ça n'est pas régulier. Madame Pénicaud ne devrait pas être...
C'est une question de procédure, Régis, ce n'est pas une question de procédure. C'est une question de règles et de fonctionnement.
Non, les règles sont là. Les règles sont là, le chapitre des atteintes à la probité, etc. Je le connais par cœur, j'ai enseigné ça. Excusez-moi, je prends des arguments d'autorité, il m'en faut de temps en temps. Ce que je veux dire...
C'est que les règles, elles ne sont pas bonnes, puisqu'elles leur permettent...
C'est pas que les règles ne sont pas bonnes. Ce que te dit Régis, c'est que les règles existent, mais elles ne sont pas appliquées.
Je dis qu'aujourd'hui, la fusion des blocs bourgeois dans le macronisme, c'est-à-dire... bourgeoisie nationale et bourgeoisie internationale, pour faire vite et de façon caricaturale, fait que les organes de contrôle, nous on a 4 cours suprêmes dans ce pays, hein, c'est formidable, on a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, et donc le problème c'est qu'il y a une connivence avec ces couches au pouvoir,
ces
80 ans. Non, je suis d'accord.
Des jurys populaires qui reprennent l'application des règles, ça va être mieux appliqué les règles, non? Si ce sont des jurys, comme aux assises, si ce sont des simples citoyens formés pour ça, d'accord, et peut-être encadrés par des juges comme aux assises.
Il faut qu'il y ait quand même quelques magistrats.
Voilà, des professionnels du droit, peut-être des avocats d'ailleurs, hein, qui encadrent ces citoyens. Mais oui, pourquoi pas?
Je souris parce que les avocats, je n'ai pas envie d'être juge, mais je veux encadrer les citoyens
pour qu'ils appliquent le
droit.
En tout cas, moi, il me semble que dans une constitution provisoire, il faudrait retirer aux acteurs politiques leur puissance, leur impunité, les empêcher de nous faire tirer dessus avec leur LBD, les empêcher de nous gazer, de nous gradaler.
Aujourd'hui. Hein, les règles qui le permettent sont possibles. Seulement, on a saisi le Conseil d'État, il a refusé d'interdire le LBD. Monsieur le procureur,
il faut des règles contraignantes.
Non, elles sont contraignantes, les règles.
Mais non, puisqu'il y a jamais eu autant de corruption. Donc les règles ne sont pas contraignantes.
Les règles existent. Aujourd'hui, vous avez un procureur. Vous avez un procureur qui dit email, vous gardez les gens.
En fait.
Vous gardez les gens, pour pas qu'ils retournent manifester. Ça s'appelle une séquestration arbitraire par agent public, c'est 10 ans.
Voilà. Hein, mais quand est-ce mais comme il n'y a personne pour l'appliquer, Régis, il faut bien quelque chose. Alors, comment on fait
Mais c'est ça, donc je dis que les règles sont là. Oui, mais le problème, c'est que les outils sont au service de
Régis,
ce pouvoir.
Régis, on t'entend. Mais aide-nous. Dans cette constitution.
S'il vous plaît.
J'ai envoyé une note d'honneur.
Dans cette constitution.
Mais si les gens qui sont responsables de ça pouvaient être
faites un effort, Régis, enfin...
Travaillons pour le bien commun, là.
Moi, ça fait...
Les bons athées soient révoqués.
Pour le bien commun. C'est pour ça que j'ai toujours
perdu. On aurait révoqué Régis. Castaner et compagnie depuis longtemps, Régis, si c'était possible.
Ceux qui sont censés appliquer ces règles et qui ne les appliquent pas, il faut bien les virer et les remplacer par des gens plus intègres qui vont appliquer les règles. Alors, moi, je dis des jurys citoyens comme les assises, peut-être que tu as une meilleure idée, mais... Il va bien falloir, puisque les règles existent, tu as raison, c'est pas la peine de réécrire les règles existent pour incriminer tous les auteurs de cette turpitude et de ces crimes, hein, parce que les gens nous éborgnent, nous tirent dessus, nous grenadent. Qu'est-ce qu'on met comme institution, et ça va être dans la constitution provisoire qu'elles vont être mises en place, qu'est-ce qu'on met comme institution pour appliquer ces règles?
Il va bien falloir virer les membres du Conseil d'État, virer les membres du Conseil constitutionnel, quelques précédents historiques. Hein, nous avons des magistrats qui ont prêté serment à Pétain sauf un. Hein. Ensuite, donc, ils ont fait guillotiner les résistants. Hein. Ensuite, ils ont fait fusiller les collabos. Ensuite, ils ont fait fusiller et décapiter les gens du FLN. Mais
avec une vraie constitution, on l'aurait empêché, non ?
Ce que je suis en train de dire...
Est-ce qu'on ne l'aurait pas empêché avec une vraie constitution ?
À partir du moment où il y a cette insurrection qui aura lieu, et il y aura eu un changement de pouvoir,
il est clair que
les règles qu'on a aujourd'hui, et peut-être avec les mêmes... ils passeront tous au tourniquet, et ce sera une priorité.
Bon,
il faudra les juger, mais qui va
remplacer le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel? C'est ça l'idée, là.
Dans un premier temps, ils feront le travail. Après, on épurera.
Sont-ils véritablement utiles? Le Conseil constitutionnel est-il véritablement utile à partir du moment où le peuple donne des feuilles de route à ses mandatés?
Dans le cadre d'une constitution de transition, il n'y a plus besoin du Conseil constitutionnel. Voilà. Par contre, c'est justement ça va être un des rôles d'un Conseil national de transition.
Il joue le rôle de Conseil. Quand tu prévois une constitution transitoire, quand tu prévois un texte juridique, si tu ne prévois pas la sanction, si tu ne prévois pas l'organe qui sert à l'application, si tu ne prévois pas les sanctions, c'est comme si tu avais écrit pour rien. En fait, à chaque fois que les citoyens se mettent en tête d'écrire soit une règle législative, dans le cadre d'un AIC par exemple, soit une règle constituante, il faut que les citoyens apprennent à penser à l'application de cette règle. Quel est l'organe qui va appliquer cette règle et quelles vont être les sanctions quand la règle n'est pas appliquée?
Il s'agit de déterminer, puisque là on est dans le cadre constitutionnel, comment tous les organes vont fonctionner.
Je sais que le Conseil constitutionnel vous hérisse.
Il est trop sage.
Le mot vous hérisse, mais vous allez avoir besoin...
Des fois, je vous coupe la parole.
Mais vous allez avoir besoin d'un Conseil constitutionnel, parce que c'est l'organe qui va être chargé de l'application de la Constitution provisoire.
Conseil national de transition.
Vous l'appelez autrement, si vous voulez, parce que le terme est marqué, connoté, mais structurellement, vous allez avoir besoin de cette fonction-là.
Dans l'Assemblée nationale. Une commission qui s'occupe de ça dans l'Assemblée nationale.
Tu l'appelles une commission...
C'est un organe qui va s'occuper de la bonne application de la Constitution de transition.
Voilà, donc il va bien falloir qu'il y ait un Conseil.
Alors on lui trouve après le nom qu'on veut, mais...
Non, sur la justice et la condamnation des gens qui abusent de leur pouvoir actuellement, ça peut être aussi des CRS qui désobéissent aux ordres pour... Il y a des tas de gens qui... Autant la police, on aura besoin d'elle pour faire gagner l'insurrection, autant il y a des gens qui ont commis des crimes contre le peuple, qui devront être jugés. Par contre, au niveau de la constitution provisoire de transition, je pense que son rôle doit être fédérateur beaucoup plus que clivant, Et moi, je ne m'avance pas sur la création de nouveaux tribunaux à ce niveau-là. J'agis juste sur un point. Alors, quand je dis « je », non, je ne devrais pas dire « je » parce que j'avais écrit l'article et il a été validé en atelier constituant. Donc, on peut dire qu'il y a un groupe de citoyens qui a travaillé autour de cet article et qui l'a enrichi. La grande priorité à ce niveau-là, ce n'est pas de tout casser, surtout dans une constitution provisoire, mais c'est de couper tout lien hiérarchique entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Hiérarchique, si. Et actuellement, c'est le parquet et le ministre de la Justice et le procureur qui les ont. On le remplace dans cette constitution-là par une chambre des poursuites. C'est-à-dire que la chambre qui décide de classer ou de ne pas classer sans suite, qui décide de faire appel ou de ne pas faire appel. Et cette chambre de poursuite est constituée de citoyens tirés au sort et elle est renouvelée régulièrement. Donc les juges, même si dans un premier temps on aura peut-être des juges qui auront été favorables au pouvoir, mais peut-être une partie d'entre eux auront été favorables au pouvoir parce qu'il y avait un lien hiérarchique et qu'ils avaient peur, mais ils vont sentir le vent tourner, ils auront à rendre des comptes aux citoyens, ils donneront des meilleurs jugements. Donc quand ils n'auront plus peur de suivre la loi, quand la loi a dit « voilà, tel CRS a violé le règlement, ou tel politicien a pas déclaré ses impôts, etc. », ils auront non pas le contrôle du pouvoir exécutif en place, mais le contrôle des citoyens, ils auront des meilleurs jugements. Mais ça, c'est dans le provisoire. Après, le pouvoir législatif définitif, c'est aux constituants tirés au sort de l'écrire.
Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec cette
qu'est-ce
indépendance.
Qu'est-ce qui t'embête avec
l'autorité de poursuite, ouais. C'est le pouvoir exécutif. J'ai la mission de maintenir l'ordre et le respect de la loi dans ce pays.
Alors là, on n'est vraiment pas d'accord.
On m'a donné. Mmh. Et ouais. Donc, j'ai un outil qui est le parquet. Mais le parquet,
ça viole l'indépendance des pouvoirs.
Et, le parquet, il poursuit. Hein, et sous la responsabilité du pouvoir exécutif, mais le juge juge. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes?
Aujourd'hui, l'exécutif décide. Ce qui est important, ce n'est pas les poursuites, c'est les non-poursuites. Avec ce mécanisme, mais avec ce régime-là, l'exécutif peut ne pas poursuivre ses copains. Et ça donne l'impunité générale des
mais
politiciens.
Mais je vous signale, et je pense que c'est une décision parfaitement critiquable au plan juridique, que monsieur, comment vous l'appelez là, l'archevêque de Lyon là, le cardinal Barbarin, a été condamné. Il a été condamné, il y avait des plaintes qui avaient été déposées que je trouvais pas recevable, hein. Ça, c'est donc je suis pas spécialement catho, mais je trouvais que la décision prise par le parquet de classement sans suite était normale. Moyennant quoi, les parties qui se considéraient comme victimes ont fait une procédure de citation directe et il a été condamné. Il a été condamné par une décision qui, je pense, sera réformée en appel. Ce que je veux dire. Non. Ça me rassure parce que le pouvoir d'initiative, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit l'exécutif qui ait ça? Parce que non. S'il a le pouvoir de ne pas poursuivre.
Laisse-moi parler. Là, j'étais en train de te dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Hein, c'est que les parquets refusent de poursuivre. Les victimes poursuivent. Elles ont un pouvoir d'initiative. Hein. Avant, c'était immédiatement. Plainte avec caution de partie civile, et il y avait une instruction ou citation directe devant le tribunal à l'initiative d'une partie, à l'initiative
de la
victime.
Donc tu veux dire, si les parquets ne poursuivent pas,
si les parquets ne poursuivent pas, on peut poursuivre. Bon. Ouais. Donc, ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, il y a des associations, Anticorps et compagnie, qui peuvent tout à fait... Et c'est ce qui s'est passé dans Ferrand, classement sans suite par le parquet. Anticorps a déposé une plainte. Hein, c'est arrivé chez... Et c'est une histoire extraordinaire. C'est arrivé au pôle financier. Hein, Monsieur Van Humbeek, que je critique assez souvent, par ailleurs, a décidé de convoquer Monsieur et Madame Ferrand pour les mettre en examen. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On a saisi immédiatement la Cour de cassation qui a délocalisé à Lille. Et c'est tombé chez un juge d'instruction à Lille. Juge du siège. Ah oui. Donc, la Cour de cassation... C'est pas fini. Hein, et le juge d'instruction de Lille a dit « Je suis désolé, moi je suis de la ville devant Wimbeck. » Immédiatement, on lui a nommé deux autres magistrats, collégialité, ils sont trois, et M. Ferrand dort paisiblement. Dans l'affaire des Gilets jaunes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, c'est-à-dire que les parquets ne bougent pas. Il y a des films, etc. Les parties, les victimes, déposent une plainte. Et que font, messieurs les juges d'instruction? Quand il y a une initiative d'une partie, hein, d'un simple citoyen, hein, on lui demande de consigner un peu de sous pour, donc, c'est des petites sommes en général pour garantir. Ce qui est logique pour pas
qu'il y en a.
Hein, ce qui est
une barrière financière.
Non. Moi, j'ai vu ça.
Quand le parquet veut que ça soit une grosse somme.
On tient compte des revenus, etc. Et les magistrats, dès lors que c'est pas un truc fantaisiste. Il y en a des trucs fantaisistes. Hein, j'en ai connu pas mal. Bon.
Oui, mais donc, on peut pas préjuger.
Non. Ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe dans les affaires de Gilets jaunes? Les juges d'instruction, qui sont des magistrats du siège, théoriquement indépendants et par conséquent impartiaux, mettent des sommes considérables pour bloquer les procédures.
Et donc, on n'arrive pas à attaquer.
Le problème n'est pas celui d'un parquet qui applique une politique pénale décidée nationalement, etc. C'est-à-dire que cette peur, l'exécutif, si on fait une constitution et on la change, etc., j'espère qu'on considérera qu'on peut mettre en place un exécutif, qu'on se méfie. Oui.
Je pense que l'exécutif pourra très bien poursuivre en justice quelqu'un comme n'importe quel citoyen. J'ai dû lire la ligne sur le pouvoir de la Chambre des poursuites, parce que ça répond en partie à ce que vous avez dit. La Chambre des poursuites décide de l'opportunité des poursuites, des classements sans suite, des appels des décisions de justice, attribue ou retire les affaires à des juges d'instruction, décide des dépaysements. Donc la question du dépaysement de l'affaire donc dans un autre tribunal, parce que ça ne convenait pas au pouvoir en place, là ça serait pas le pouvoir en place qui en déciderait.
Pas le pouvoir en place qui en décide là, hein. Il y a des règles.
C'est la Cour de cassation.
Ils obéissent pour des raisons de connivence, de gestion de carrière et pour
toute une classe. Oui. Voilà. Et bien donc si on décide que les poursuites vont être décidées par un organe collégial tiré au sort parmi des simples citoyens, tu vas plus avoir conflit de classe.
La délocalisation appartient à mon avis au juge du siège. C'est à lui.
Oui, mais ça serait plus lui. Là.
Parce qu'on choisit pas son juge, etc.
Mais là, ce serait le fait que ce soit un organe collégial composé de citoyens tirés au sort.
Qui peuvent analyser eux-mêmes s'il y a un conflit de localité, s'il y a des risques de pression locaux. Parce que c'est ça que fait le juge qui décide du dépaysement. Des citoyens tirés au sort peuvent très bien avoir une audition où ils vont décider de ça en connaissance de cause.
Moi, je pense que le parquet, c'est pas pour la poursuite de tel politicien ou tel policier brutal, etc. C'est un ensemble, ça, à l'échelle d'un pays, etc. Il y a une politique pénale à mettre en place, il y a un travail important qui est fait, vous savez, il faut voir comment ils bossent les parquets de 95 ou 93, oui, pénale, un peu, c'est dur, c'est des métiers difficiles,
politique pénale,
j'ai beaucoup de respect pour eux. Hein. On parle du pouvoir. Alors, c'est ce qu'avaient fait les Américains avec leur procureur indépendant, Kenneth Stark, vous vous rappelez, qui a absolument voulu faire sauter Clinton parce qu'il avait eu cette aventure avec, je ne sais plus comment elle s'appelait.
Monica Lewinsky.
Lui, il est incollable sur ces références-là.
Les sujets qui le passionnent.
Et donc, ils y ont renoncé finalement. Et là, le procureur Mueller, qui a dit qu'il n'y avait pas d'ingérence russe, ce n'était pas un procureur indépendant. Il a quand même fait son boulot. Parce qu'il était totalement téléguidé par l'État profond, par le FBI et par Clinton, hein, madame.
Mais c'est pour éviter justement ce téléguidage qu'une chambre de citoyens tirée au sort me semble pertinent. Oui.
Dominique Gaigne veut réagir.
Oui, non, j'aimerais bien qu'on recentre un peu le débat, parce que là, on est en train de partir sur
les détails.
Enfin, oui, qui, à mon sens, sont un peu. Enfin, sont pas de l'ordre du jour pour le moment.
Oui, parce que, Étienne, tu demandais ce qu'il fallait qu'il y ait
dedans.
Et une constitution pour que nos auditeurs comprennent
les idées simples. Et j'avais noté, donc, retirer aux acteurs politiques leur puissance et leur impunité de façon à ce que le processus constituant populaire que nous désirons puisse se dérouler sans qu'ils leur mettent des bâtons dans les roues. Mais j'avais pensé aussi, dans une constitution transitoire, d'ailleurs c'est le cœur, à mon avis c'est le plus important, il faudrait que cette constitution organise les modalités pratiques d'un processus constituant digne de ce nom. Et donc, sans les conflits d'intérêts qu'on observe tout le temps dans tous les processus constituants, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, à toutes les époques, ce sont les professionnels de la politique, les politiciens, ce qu'on appelle les politiciens, donc les élus, c'est les gens qui ont fait de la politique leur métier, ce sont eux qui écrivent la constitution alors qu'ils devraient la craindre. Et donc, là, l'idée, dans une constitution provisoire, ce serait d'organiser un processus constituant qui tienne les politiciens précisément à l'écart du processus constituant et qui permettent, comme disait Sophie tout à l'heure, aux citoyens d'avoir des réunions, de se parler, de s'informer, de débattre, organise les agora. C'est bien écrit dans ton texte, hein, l'organisation des agora locales.
Donc, il y a, à mon avis, le deuxième point d'une constitution transitoire, après avoir retiré aux acteurs politiques leur capacité de nuisance au processus constituant populaire, il y a l'organisation du processus constituant populaire. Oui. Et puis, pendant ce temps, vous en parlez tous les trois, je crois, il y a la gestion des affaires courantes. C'est-à-dire qu'il faut organiser le fait que les affaires courantes doivent être gérées, et c'est probablement les fonctionnaires habituels, ceux qui gèrent, en fait, qui ne sont pas les ministres, qui ne sont même pas les secrétaires d'État, mais il faudrait organiser ça pour, de façon à ce que tous les fonctionnaires, notamment les fonctionnaires de police et l'armée, mais pas seulement, aient un texte de référence, ne se retrouvent pas sans cadre juridique.
Mais ça, c'est pour les payer.
Pour les pays. Et à alors, l'exception de ceux qui auront été convaincus de corruption.
Voilà, et qu'on aura mis à l'écart. Mais j'ai reçu un courrier étonnant d'un fonctionnaire territorial qui m'a dit, il m'a écrit ça hier, il m'a dit, je vous signale que nous, au niveau territorial et local, nous sommes tous prêts à décentraliser. Nous savons collecter l'impôt, nous savons tout ce que fait la République, nous savons tous le faire au niveau local, et s'il faut changer de régime et continuer à exécuter les affaires courantes, nous savons très bien faire ça, voilà. Et on y est prêts.
C'est
marrant. Il m'a dit oui, si c'est anonyme.
Il y a aussi autre chose qui paraît important dans une constitution, et surtout qu'il faut le dire vraiment très clairement à nos auditeurs, c'est que à partir de ce moment-là, vous tous, nous tous, nous pourrons être amenés à effectuer des missions d'intérêt général,
à devenir
des mandatés, à devenir des constituants. C'est très important. Cela nous concerne vraiment tous. Ça ne doit pas concerner seulement des spécialistes, qu'ils soient effectifs ou prétendus. Ça ne doit pas venir simplement de gens qui sont simplement motivés par la question. Mais nous tous, nous avons notre part à apporter dans ce processus. Et je crois que ça, vraiment, il faut que les auditeurs le comprennent et en soient fiers, finalement.
Attends, je voudrais finir là-dessus, je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est effectivement le but d'une constitution de transition qui va permettre après à tous les volontaires, parce qu'on ne va pas pouvoir forcer les gens à prendre part au processus constituant populaire, mais au moins à tous les volontaires, sont invités à participer au processus et donc à devenir mandataire de la représentation, à devenir décisionnaire, à proposer des lois, à participer.
Il faut un statut.
Un processus politique.
Il faut un statut du mandaté.
J'ai une grosse objection.
Ça, c'est important. Et puis, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans notre texte, nous proposons que tous les mandatés, qu'ils aient été tirés au sort ou qu'ils aient été élus, ça, ce sont des choses qu'il faudra décider, mais ils soient payés au salaire médian en cours en France. Après, les frais de fonctionnement de leur mission, s'ils doivent voyager pour faire une enquête par-ci ou par-là, ce seront des frais encadrés, ils devront justifier de leurs frais, ce sera très, très sérieusement suivi. Mais je trouve que pour éviter des motivations de bas étage, ce serait bien qu'on dise chaque mandaté, ça sera le salaire médian français.
Régis Legasseur, plusieurs désaccords.
Effectivement,
au Parti communiste, tout le monde avait le salaire de l'ouvrier professionnel, ça faisait une belle ressource, tous les élus versaient, mais ils n'étaient élus que parce qu'ils étaient présentés par le Parti communiste, c'est tout à fait exact, ce qui permettait d'avoir des ouvriers à l'Assemblée nationale. Bon, donc moi je dis, la démocratie, elle a un prix, elle a un coût aussi, et on voit ce qui vient de se produire. L'investissement, moi j'ai beaucoup milité dans ma vie, mais là qu'est-ce qui vient de se passer? On a fait plouf plouf, on a demandé à des gens d'envoyer des CV, c'est Amazon Premium qui les a amenés, et nous avons une chambre magnifique, avec des parfaits inconnus qui ont débarroulé, et qui s'appelle
La
République en marche, évidemment.
Tous les inconnus, c'est tous des vieux chevaux.
Non, c'est faux, il y a des chefs d'entreprise, il y a la Claire au Petit,
il y a
Aurore Berger, c'est un vieux cheval de retour, la Aurore Berger. Et là, on a vu dans cette Assemblée nationale, qui est croupion et qui déshonore tous les jours sa fonction, on a vu effectivement la servilité du monde de l'entreprise, c'est-à-dire des salariés, etc. On a vu, c'est extraordinaire. Moi, j'ai connu De Gaulle, j'ai connu les Godillots, c'était pas comme ça. Là, c'est incroyable. La caporalisation. Donc, moi, je veux bien qu'il faut ouvrir, il faut de l'air, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je pense que
Qu'est-ce que tu veux nous dire que les professionnels
je veux dire que attention
vont devenir moins godillots.
Non, attention à cette vision des choses qui pense que ce qui arrive de la base comme ça serait bon par définition. On a une jolie catastrophe avec la chambre et l'REM.
Régis, aujourd'hui, mais c'est comme ça depuis le début de la cinquième. Hein, celui qui a gagné l'élection présidentielle, c'est un chef de parti toujours. Même De Gaulle.
Quand il y avait le septennat.
Mais quand même. Mais même avec le septennat, il était celui qui gagne la présidentielle.
Sauf en cas de cohabitation.
Non. Celui qui gagne la présidentielle est chef de parti. C'est le chef de parti. Or, c'est lui qui va avoir l'élan populaire dans la législative qui suit. C'est lui qui va avoir l'élan et qui va remporter la majorité. Il n'y a pas de contre-exemple. Nous avons toujours, et c'est logique.
C'est comme ça depuis 2002 seulement.
Non, quand l'élection législative arrive juste après, c'est vrai que ça n'arrivait pas toujours, ça arrivait de temps en temps. Maintenant, ça arrive toujours parce qu'ils ont calé
Et ils ne dissoudront jamais. Parce que ça, c'est la dissolution, elle aurait dû avoir lieu d'ailleurs.
Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que comme les députés doivent leur carrière, puisqu'ils doivent l'investiture aux chefs de parti qui viennent gagner, ils doivent leur carrière, leur élection et leur réélection, parce que là, il faudra une réinvestiture pour qu'il y ait une réélection. Comme les députés doivent leur carrière au président de la République, ils lui sont subordonnés. C'est ça qui en fait des godillots. Mais ça, Régis, c'est comme ça depuis le début dans la cinquième. Les députés gaullistes...
C'est vrai que c'était formidable sous la quatrième. On avait des petits groupes qui s'aggloméraient.
C'est encore autre chose.
Et on avait un ministre de la Défense qui préparait le coup d'État du 13 mai 58, qui était ministre de la Défense, qui était Chavandelmas.
C'était pas mieux. Régis, je ne dis pas un autre. C'est pas parce que c'était nul sous la quatrième que ça justifie la nullité de la cinquième. Les deux régimes tiennent le peuple à l'écart et ne nous servent pas.
Répondais à Mme Norton, c'était pour ce qui concernait cette nécessité de faire venir les gens, et ça, je trouve ça précieux, je trouve ça très important, hein, qu'il y ait plus de... du temps du PCF, il y avait 100 ouvriers à l'Assemblée nationale et c'était pas rien. Alors certes, ils étaient... faudra le faire passer devant le...
On arrive, il reste un peu plus de 3 minutes. Hein, c'est pour ça, vous le lirez
donc,
après.
Bon, allez, je dis simplement que faut faire attention à cette idée l'ingénu peut comme ça faire mieux que d'autres, etc. Je suis pour le brassage, mais là, ce qui s'est passé avec LREM, c'est pas une belle démonstration quand même.
Ouais, sauf que là, LREM, ils n'avaient pas potassé avant comme là on le fait. Ils ont été parachutés, ils sont complètement soumis à la politique du parti.
Alors pour ceux que ce débat intéresse, je signale que nous, les citoyens constituants, organisent un atelier constituant le 19 mai à 13h, près de la porte d'Ivry, et qu'on peut s'inscrire et pour avoir l'adresse complète sur un formulaire qui est sur le site atelierconstituant.org ou alors lescitoyensconstituants.org. Ou sur notre page Facebook, on retrouve le formulaire également.
Étienne Chouard, il reste 2 minutes et 10 secondes.
Je voudrais aussi souligner le sujet de la semaine prochaine. Nous allons recevoir des Algériens qui sont comme les Gilets jaunes dans la rue, sauf qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont des dizaines de millions. Il y a dans les rues algériennes plus d'Algériens que le corps électoral. Donc ils sont tous dans la rue en fait. Et ils sont en train de devenir constituants et ils vont venir nous en parler la semaine prochaine. Et peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur le sujet de constitution transitoire. Si ça se trouve, ils y ont pensé. Parce que vraiment, il y a des ateliers constituants et des cours de droit constitutionnel. J'espère qu'on va avoir ce prof qui fait des ateliers constituants un peu partout. Donc ça devrait, je crois, être très intéressant. Dominique n'a pas beaucoup parlé.
Bon, Dominique, il reste 1 minute 20.
Non, mais c'est... Enfin, je reste un peu sur ma faim, sur le fait qu'on n'ait pas assez abordé...
Le contenu. Hein.
Voilà, approfondi un peu le contenu de ce qu'on... Enfin, oui, du contenu de vos différentes propositions.
Heureusement, les textes sont en ligne.
Voilà. Donc, allez travailler en ligne. Et vous avez toute la matière pour...
La dernière minute pour...
Moi, je viens de recevoir un SMS qui me dit... Bonjour, Bonsoir, seriez-vous partant pour un débat avec Chouard sur un médium et sujet quelconque ? Je lui réponds, pas question, hein.
J'ai ma dose.
C'est tout à fait vrai, hein. J'allais bien de le recevoir à l'instant.
Par galanterie, le mot de la fin à la dame, Sophie Norton ?
Oui, j'aimerais dire simplement à nos auditeurs que partout où ils sont, en province, pas seulement à Paris, il y a des ateliers constituants, il faut qu'ils se rapprochent de ces ateliers, on trouve des adresses sur Internet, il faut qu'ils aillent voir des groupes de gilets jaunes aussi qui ont des relations dans les constituants, et vous serez tous accueillis avec un très grand plaisir pour pouvoir améliorer notre travail et participer à cette grande aventure.
Bravo. C'est jouissif, les ateliers constituants, c'est très agréable, vous verrez. Très, très, très
agréable. Allez en faire sous les tropiques.
Et merci à Sud Radio.
Merci beaucoup à toutes et à tous. On arrive au bout de ce Facebook Live et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur le Facebook Live de Sud Radio.
Merci Philippe, merci Sud Radio.
Tu mangeras des caries et tu boiras du rhum arrangé.